nous avons pu développer nos actions. Le second pôle, l'ETP. Alors ça, c'est ce qu'on appelle notre cœur d'ador. L'ETP. Alors, soit sous une des postures éducatives sur des parcours identifiés, alors on va vous expliquer, soit par de l'ETP sur des programmes autorisés par l'ARS et déclarés tels que actuellement nous avons des parcours déclarés pour l'obésité de l'adulte, de l'enfant, le diabète, les maladies cardiovasculaires et bien sûr plus récemment sur les MNC, encore un acronyme, hein, les maladies, hein, ce sont des ateliers hein, pour les maladies neurocognitives. Alors, nous avons des ateliers qui vont se faire. Ce sont des ateliers soit de groupe, soit des ateliers individuels. Il est sûr que quand nous avons commencé, 2019, 2000, ça a bien commencé. 2020, ça a commencé à coincer. Donc, nous avons dû développer des stratégies pour pouvoir continuer nos activités par des biais que Coralie développera dans l'historique. Actuellement, nous intéressons aux pathologies chroniques, hein, la BPCO, l'apnée du sommeil, et tout ceci en appui aux maisons de santé pluriprofessionnelles. Hein, on a parlé tout à l'heure des médecins généralistes qui n'étaient des fois pas bien informés. Hein, donc nous, on va pouvoir être des relais. Et au niveau des CPTS, alors aussi encore un acronyme, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont des groupements à des nouveaux beaucoup plus importants. Et toujours, nous, notre but, c'est de toujours être en proximité. Nous sommes un territoire rural, donc nous allons essayer d'être au plus proche pour que le patient n'ait pas des kilomètres à faire pour pouvoir avoir accès à de l'éducation thérapeutique. Le troisième pôle, et il nous tient aussi à cœur, c'est un pôle d'innovation. Bien que notre territoire soit rural, on dit qu'il y a plus de vaches en Meuse que d'habitants, nous nous inscrivons dans une démarche innovante grâce au développement du programme IMEUSE Santé avec les départements de la Meuse, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la région Grand Est. Pour le développement de la médecine numérique dans nos territoires, la médecine numérique, c'est un outil, ça n'est certainement pas la solution, et nous apportons, nous, par le fait des expérimentations, nous participons à des expérimentations en introduisant des outils numériques connectés dans nos parcours, et en particulier donc sur la BPCO et l'apnée du sommeil dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est un des facteurs qui est reconnu dans les MNC. Et bientôt, justement, nous allons développer des expérimentations dans les maladies neurocognitives. Là-dessus, Coralie va nous présenter l'ETP.
Alors, juste pour faire un petit mot sur vous présenter l'ETP, ce qu'est l'ETP de manière générale, donc qu'est-ce que c'est ? Ça va être un accompagnement pluridisciplinaire, adapté aux patients. Le but, ça va être de l'aider à acquérir ou maintenir les compétences que lui-même va devoir mobiliser pour mieux vivre au quotidien avec sa maladie. Comment ? Donc, ça va être en individuel ou en groupe. Après, tout va dépendre des besoins du patient et de ses capacités à supporter, que ce soit l'individuel ou même le groupe. Par qui ? Donc par une équipe pluriprofessionnelle, par une équipe pluriprofessionnelle et formée à l'éducation thérapeutique, puisque c'est déployé dans le cadre de programmes autorisés par l'Agence régionale de santé. Donc à partir de là, forcément, c'est déployé par des professionnels formés à l'ETP. Où ça ? Le but, ça va être en proximité du patient. On se déploie actuellement sur la Meuse et le nord de la Meurthe-et-Moselle. On a 19 cellules éducatives qui sont réparties un petit peu partout sur les deux départements. Et si vraiment c'est encore trop compliqué pour le patient de se déplacer dans ces cellules éducatives, là on va être en ultra proximité au domicile direct du patient. Donc ça reste une prise en charge qui est adaptée, qui va être complémentaire avec les autres structures avec lesquelles on travaille, notamment les structures qui vont être là pour le répit des aidants. Alors, au niveau de la genèse du projet, alors, on a d'abord commencé en 2016 par des groupes de travaux avec des associations de patients, des professionnels, pour réfléchir un petit peu à déjà recenser ce qui existait sur le terrain, puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, et éviter de faire du doublon. Derrière, en 2017, une remise à niveau, des sessions de remise à niveau et d'informations pour les professionnels ont été déployées sur le territoire. En 2019, on a eu le top départ de l'ARS, le programme a été autorisé. Donc 2019, tout démarre plutôt bien, ça se passe très bien. Et 2020, le Covid débarque là-dedans, nous met des bâtons dans les roues, notamment avec les ateliers de groupe, puisqu'on était sur quand même une population relativement fragile, et donc les ateliers de groupe n'ont pas pu se réaliser, mais on a pu le déployer et l'adapter autrement, notamment en individuel. Et depuis 2022, ça y est, on peut repartir. Donc le programme a été déployé en 2019. Alors aujourd'hui, pour un petit court temps, on n'a pas pu vous déplacer, que ce soit des personnes aidées ou des aidants, pour vous donner à eux leur ressenti. Mais par contre, on vous a amené leurs paroles d'une manière différente. Ils ont accepté de jouer les acteurs cette fois-ci.
L'objectif du programme OTP, c'est de trouver pour le patient sa zone de confort émotionnel en optimisant ses compétences et en identifiant la pression environnementale, humaine et architecturale, qui lui est supportable.
Traduction. Traduction, ça va être d'amener le patient à trouver ce qu'on appelle son environnement prothétique, son environnement sécuritaire pour lui, et donc de ralentir sa perte d'autonomie au mieux. Donc, au niveau du Grand Est, le premier programme à avoir été déployé, donc, c'est le nôtre en Meuse, mais derrière, d'autres programmes ont été déployés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, l'Aube et les Ardennes. Alors pour faire un petit résumé, je suis désolée, le son, peut-être que tout le monde n'a pas forcément tout compris, donc c'était juste pour retracer le parcours du patient qui voit son gériatre en consultation mémoire, qui est orienté avec un flyer et qui prend contact directement avec nous. Tout parcours va commencer par un bilan éducatif partagé, et derrière, des objectifs vont être posés avec le patient en fonction de ses compétences, de son environnement, de ses attentes. Et derrière, il va pouvoir participer à une série d'ateliers individuels, des ateliers de groupe. Et donc, notamment là, on avait un atelier culinaire qui était présenté autour du manger-main. Le retour des patients, notamment la première, c'était une aidante qui était venue avec sa maman et qui, finalement, a trouvé pas mal de petites astuces pour réussir à faire manger sa maman. Et la deuxième, c'était une patiente elle-même qui parle et qui, en plus, a découvert des choses, pensait, n'aimait pas certains aliments et finalement les aime bien et maintenant veut elle-même les faire découvrir à ses enfants. Donc, à la suite de ça, l'ETP, mais pas que, puisque très souvent, les patients en situation de maladie neurocognitive vont être ressentis et perçus comme complexes par leurs professionnels de santé. Donc le réseau ADOR travaille de manière étroite avec la plateforme territoriale d'appui.
Oui, du coup, pour rebondir à ce que Coralie vient de dire, Coralie qui travaille avec les patients autour de l'ETP, des personnes qui ont une maladie neurocognitive, nous, on vient en parallèle parce qu'en règle générale, c'est des situations qui sont perçues comme complexes et on va travailler avec les aidants ou avec la famille autour du maintien à domicile, accompagner la famille ou être là en soutien pour tout ce qui est mise en place d'aide éventuellement ou l'aide aux aidants, le répit des aidants. Et du coup, on travaille en collaboration pour accompagner très globalement la situation et que la personne, on la prenne en globalité et pas juste la problématique sanitaire et qu'on prenne aussi la problématique sociale. Voilà.
Ouais, donc en effet, ça va être d'éviter le saucissonnage des patients qu'on retrouve assez régulièrement. Le but, ça va être d'avoir une prise en charge entière du patient.
Alors en conclusion, ADOR travaille avec de nombreux partenaires, dont la PTA, dont on a parlé, qui va bientôt devenir le DAC. ETIS a aussi un réseau de prévention de santé en Meuse et en Meurthe-et-Moselle au service du patient. Nous sommes au service du patient et aussi des aidants, dont c'est la journée aujourd'hui, on l'a rappelé. Et les communautés professionnelles et associatives, il est très important d'informer aussi les professionnels. On l'a dit tout à l'heure, les professionnels sont souvent peu informés, alors que ce sont vraiment les premiers recours. Je vais parler de mon expérience professionnelle, je suis kiné à domicile, et c'est vrai que des fois je me retrouve avec des patients en difficulté, des patients isolés en milieu rural, et des fois sans famille. Donc on a recours à la PTA, puisque je peux ressentir cette situation comme complexe. Si je ressens cette situation comme complexe, je contacte la PTA, qui, elle, va essayer de trouver des solutions. Et aussi, puisque nous sommes en première ligne, avec les aidants, on va aussi essayer d'inciter les aidants à avoir recours à ces PTA et à recours à ces aides. ADOR s'inscrit aussi dans la création de parcours innovants avec différents partenaires, les hôpitaux, les CPTS, les communautés professionnelles de territoriales de santé, les MSP, les associations et des start-up pour l'introduction d'outils connectés au service du patient afin d'améliorer sa prise en charge et toujours, toujours, pour nous, dans la proximité. En vous remerciant, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci, merci beaucoup. Oui.
Alors, merci beaucoup et désolé pour le son, c'est dommage parce que moi j'entendais bien. C'est très intéressant et on essaiera de le mettre à disposition quelque part. L'éducation thérapeutique, c'est quoi ? C'est permettre, quand les gens on découvre la maladie et qu'ils sont encore en capacité de pouvoir s'approprier, c'est ben, de se dire, oui j'ai du mal à manger, ben, des ateliers culinaires. Comment je pourrais faire pour aller mieux avant des activités sportives ? Donc c'est vraiment un accompagnement au quotidien à la base. Vous avez vu en Meuse, si vous êtes loin d'une cellule éducative, vous n'avez pas de voiture, ils viennent chez vous. Donc on est vraiment avant l'équipe de soins de type spécialisé Alzheimer quand les choses vont très très mal. C'est vraiment au début de la maladie pour pas laisser. Je l'ai entendu dans les questions ce matin, pour pas que les gens se retrouvent seuls quoi. On vous donne le diagnostic maladie d'Alzheimer et écoutez, tant que ça va, ça va. Ben non. Parce que si on n'accompagne pas les gens dès le départ, les aidants, ils s'épuisent. Et donc, un réseau, et ce que j'aime bien dans votre projet dans la Meuse, c'est qu'en même temps qu'on s'occupe de la personne qui a sa maladie d'Alzheimer, on s'occupe aussi de vérifier est-ce qu'elle a bien eu les aides. On l'aide à faire la paperasserie. Hein, et Dieu sait que la France, la paperasserie, c'est compliqué. Donc, c'est toute une prise en charge globale qu'on essaie de développer pour que dès le début de la maladie, la personne qui a cette maladie mais qui a encore une bonne autonomie puisse rester acteur aussi de sa vie avec son aidant et que les gens ne soient pas isolés. Voilà. On n'a pas tous des familles où il y a 15 médecins, 4 kinés et 2 orthophonistes, c'est exceptionnel. Donc c'est pour vous recréer un peu cet environnement autour de la personne. Voilà, c'est pour mettre ça dans le cadre global.
Merci beaucoup.